C'est une joie pour moi de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur sur la vie d'un roi. Mais avant tout, j'aimerais rappeler que il y a des événements dans la vie qui vous marquent et restent inoubliables. Il y en a un tout particulier en ce qui me concerne. Et ceci au sujet de l'une de mes sœurs, quand on était jeune. En effet, elle était sujet à des crises d'épilepsie à répétition. Et je me rappelais de nos parents sans cesse l'amener voir le médecin traitant, mais tous les traitements n'ont pas pu amener à la guérison. Parce qu'il ne voyait pas la cause de cette épilepsie. On était malheureux de voir notre sœur dans cet état et nos parents qui se sentaient impuissants, dépassés par l'événement. Mais suite à ces consultations infructueuses, mes parents se sont décidés de l'amener voir un spécialiste en neurologie. Et ce dernier, après des examens approfondis, donner des traitements appropriés selon la cause pour lui qui semble être à l'origine de ces crises d'épilepsie. Mais hélas, quelque temps après, les crises sont revenues. Et c'est seulement après plusieurs années adultes qu'un neurologue a pu guérir définitivement ma sœur de ces crises. Je ne voudrais pas parler de ma vie. Mais pour passer à un autre personnage, ce matin, de voir un roi qui a été rongé par la maladie. Et la maladie qu'il a atteint, c'est une maladie spirituelle. Lui, par contre, je dirais, il a beaucoup plus de chance. Parce qu'il est tombé d'un seul coup avec un bon médecin qui a pu bien diagnostiquer les causes de sa maladie et lui a prodigué les soins et les traitements adaptés. Et nous allons voir que je trouve triste pour ce roi, c'est qu'il n'a pas suivi le traitement prescrit par son médecin. Et je dirais même qu'il le rejetait. Et nous allons voir ce qui a entraîné de tragiques conséquences pour sa vie. Je vous invite maintenant à prendre votre Bible et de lire avec moi la situation de ce roi. Ce roi s'appelle le roi Josachim. Et ici, le prophète Jérémie est envoyé par Dieu lui parler. Et nous lisons maintenant ce que Dieu pense de lui. Et lui fait savoir par le prophète Jérémie, « Mais tu as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. » Verset 18, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Josachim, fils de Josias, roi de Juda, on ne le pleurera pas en disant « Hélas, mon frère, hélas, ma sœur, on ne le pleurera pas en disant « Hélas, Seigneur, hélas, sa majesté. » Il aura la sépulture d'un âne, il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. » Verset 21, « Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité. Tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. » Je veux juste reprendre le français courant pour le verset 21. Et il traduit ainsi. « Je t'avais averti quand rien ne menaçait. » On pourrait rajouter « ta vie. » Mais tu as répondu « Je ne veux pas écouter. » C'est ce que tu as toujours fait depuis ton enfance. J'aurais aimé intituler ce message par les causes de la maladie de Joachim. Mais avant de voir les causes de la maladie de Joachim, nous allons d'abord voir qui est cette personne. Parce que nous ne sommes pas tous familiers, surtout à des histoires dans l'Ancien Testament. Mais qui est Joachim? Nous allons voir après quel était le contexte dans le pays à son règne, au moment de son règne. Et nous terminerons par voir les causes de sa maladie à travers le passage que nous venons de lire à l'instant. Qui est Joachim? D'après le passage que nous venons de lire, dans Jérémie 22, verset 18, il est le fils du roi Josias. Et précisément, d'après 2 Chroniques 36, versets 1 à 4, 1 à 5 qui est affiché sur le mur, il est le frère aîné de 2 ans de son frère cadet, Joachaz. Nous lisons verset 2 de Chroniques 36, Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, il régnait 3 mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua en parlant donc de son frère cadet, et frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Je saute au verset 5, Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Le résumé de son histoire est ainsi, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il a régné donc en Juda, à peu près de 608 avant Jésus-Christ à 597 avant Jésus-Christ. Il est le fils aîné de roi Josias, dont nous allons parler un tout petit peu de lui tout à l'heure. Et j'aimerais maintenant qu'on regarde le contexte, je dirais, international de l'époque, au moment où il est en règne. Et après, regarder le contexte national, parce que ça nous aide énormément à mieux comprendre la situation de ce roi. D'abord, le contexte international. À son époque, la Syrie était une des grandes puissances et vient d'être vaincu par les Babyloniens. Les Babyloniens ont détruit la capitale de la Syrie, Ninive, en 612 avant Jésus-Christ. Donc, 4 ans avant qu'il accède au pouvoir. Il en est de même de la deuxième grande puissance, l'Égypte, qui était vaincue en 605 avant Jésus-Christ par Nebuchadnezzar lors de la bataille de Carchemish, près du fleuve de l'Euphrate. Et dès lors, le prophète Jérémie ne cesse de prêcher le royaume de Juda de se soumettre à Babylone pour accepter la conséquence de ses péchés, à savoir l'exil. Ça, c'est le contexte international. L'Égypte et la Syrie, les grandes puissances, maintenant éclipsées par la montée de l'Empire babylonien. Et ce qui se passait juste avant, donc, le règne de Joachim, c'est que son père Josias est mort. Nous lisons ici dans 2 Chroniques 35, versets 22 à 24, qu'il a été tué par l'archer du roi Pharaon, Nécho, donc, sur la bataille dans le Megiddo. Nous lisons, ses serviteurs l'emportèrent du char, au verset 24, le mirent dans un second char qui était à lui et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Donc il est mort sur le champ de bataille à Megiddo, tué par les archers du roi d'Égypte, le pharaon Nécho, à peu près en 609 avant Jésus-Christ. Rappelez-vous que le roi Josias accédait au trône à l'âge de 8 ans. Et il a hérité de Manassé et de Amon un terrible héritage à cause de l'impiété qui régnait dans le pays. Mais 4 ans après son accès au trône, il a été encouragé par le prophète Sophonie à chercher le Dieu de David. Donc à l'âge de 16 ans. Et encore 4 ans plus tard, il a commencé à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles. Il a renversé les autels de Baal. Donc un roi pieux, un roi qui craignait l'Éternel. Mais hélas, le mal est tellement ancré dans le peuple que les efforts du roi Josias n'ont pu toucher radicalement les cœurs. Et même le cœur de ses 2 fils, Joachaz et Josachim, qui n'ont aucune crainte de l'Éternel. Donc, l'héritier logique du trône serait Éliakim ou Josachim. Mais le peuple, comme nous lisons dans 2 Chroniques 36, verset 1, prit Joachaz, fils de Josias, et l'établit roi. Il a régné que 3 mois. Et maintenant, le roi Nécho, donc, va destituer Joachaz et installer comme roi de Juda son frère Josachim au trône. Il est à remarquer que le roi d'Égypte frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent et de talents d'or. Donc, il a été soumis sous un lourd tribut. Et nous savons par ailleurs, vous pouvez lire dans 2 Rois 24-35 qu'il imposait des taxes au peuple. Il fixait le montant pour chacun et exigeait pour qu'il puisse donner ce tribut qu'il doit au roi Nécho. Donc, le roi Josachim a régné de 608 avant Jésus-Christ à 597 avant Jésus-Christ, comme nous l'avons évoqué au début, et il a régné pendant 11 ans. Il a accédé au trône à 25 ans, comme nous venons de lire. Intéressons-nous maintenant au problème de la maladie qu'il a atteint. Je dirais que cette maladie est une maladie spirituelle. Et nous allons voir maintenant les causes de sa maladie. Mais d'abord, en passant, je voudrais vous faire remarquer qui est le médecin qui fait le diagnostic quant à son état spirituel. Dans Jérémie 22, verset 6, il est indiqué clairement que c'est l'Éternel qui est le médecin qui pose le diagnostic sur son état de santé. Ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda. Et au verset 16 encore, « N'est-ce pas là me connaître ?» dit l'Éternel. Première cause de sa maladie, c'est l'injustice. Nous avons lu tout à l'heure, verset 13 du chapitre 22 de Jérémie, « Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice, et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. » Donc, le roi Josachim avait construit son palais avec une main d'œuvre non payée. Et vous savez que le roi, s'il craint l'Éternel, devrait avoir la copie de la loi de Moïse. Il doit le lire chaque jour pour que la crainte du Seigneur, de l'Éternel, soit dans son cœur. C'est écrit dans Deutéronome. Mais nous voyons ici que ce n'est pas le cas du tout. Il a enfreint la loi de Moïse sur ce aspect-là. Regardez Deutéronome 24, verset 15. Je vous invite à regarder Deutéronome 24, verset 15. Concernant cette exploitation des ouvriers sans les payer, il est écrit, « Tu n'opprimeras point le mercenaire, le pauvre et l'indigent, qui soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. » Ça, c'est le verset 14, excusez-moi, et verset 15. « Tu lui donneras le salaire de 100 journées avant le coucher du soleil, car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargeras des péchés. Voilà ce qui est de la loi de Moïse concernant le roi, et nous voyons très bien qu'il a enfreint ces points. J'aimerais juste faire une petite remarque. Pourquoi il doit donner le soir même à la fin de la journée et non pas à la fin de la semaine ou bien à la fin du mois son salaire? Il me semble que, à l'époque, ici il parle des pauvres, donc des gens qui ont besoin d'être payés la journée pour s'acheter à manger et nourrir sa famille le jour même. Et pourquoi il est indiqué qu'il crierait l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché? Il faut se rappeler que le peuple d'Israël, il était en Égypte en tant qu'esclave. Et c'est seulement au moment où ils ont crié à l'Éternel que l'Éternel est venu pour les délivrer de la main de l'oppresseur. Nous lisons cela dans Exode 3, verset 9. « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Donc ici, ce roi va subir le même jugement qu'a subi le roi Pharaon s'il traite avec injustice le pauvre qu'il a comme sujet. Donc, premièrement, nous avons vu qu'il a enfreint, et la cause de sa maladie, c'est l'injustice. Nous allons voir aussi que deuxième cause de sa maladie, c'est le luxe, ou je dirais la folie de grandeur. Vous avez sur le mur le passage concernant ce roi qui dit « Je me bâtirai une maison vaste », j'ai souligné « vaste », et la grandeur, et des chambres spacieuses, et qui s'y fait passer des fenêtres, la lambrisse de cèdre. Et j'étais frappé par cette question. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas et ne buvait-il pas? En parlant du roi Josias, mais il pratiquait la justice et l'équité. Et il fut heureux. Ici, le Seigneur sonde, a sondé son cœur et a pointé sur son problème. Il est en train de lui dire par cette question, tu règnes pour dilapider les biens sociaux afin d'assouvir ta passion pour le cèdre, pour sa folie de grandeur. Ça, c'était au roi, à l'époque du roi Joachim, mais notre époque aujourd'hui est caractérisée par ce même vice aussi, par ces grands dans d'autres pays ou qui dilapide les biens pour assouvir sa passion et son égoïsme. Troisième chose que nous lisons à la cause de la maladie de Joachim, c'est l'oppression et la violence. Il est dit dans Jérémie 22, verset 17, « Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité et pour répandre le sang innocent, pour exercer l'oppression et la violence. » Ouvrez votre Bible pour mieux comprendre ce qui était dit ici. Dans Jérémie 22, verset 3, Jérémie le prophète est envoyé par Dieu dans la maison du roi, dans le verset 3, et il doit rappeler comment il devrait se conduire. Tous les rois qui sont sur le trône de Juda devraient avoir des traits de caractère, comme il est indiqué par le prophète Jérémie. Jérémie 22, verset 3. « Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence, ne répondez point le sang innocent. » Donc, il est averti par un premier appel, par l'envoi de Dieu dans la maison du roi, là où il se trouve, pour lui rappeler ce qui doit être sa conduite. Donc l'Éternel rappelle ici le caractère qu'auraient dû manifester les rois sur le trône de David. Ils devaient juger justement et ne pas opprimer. Au contraire, il doit délivrer l'opprimé, la veuve et l'orphelin, en craignant l'Éternel et en gardant fidèlement toutes les paroles de sa loi. Deuxième rappel, pour l'avertir pour cette attitude, regardez le verset 15. Il a vu l'exemple de conduite de son père, en parlant du roi Josias. Son père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas, pour ainsi dire qu'il a vécu bien une vie de roi, rien ne lui manquait. Mais en contraste avec son fils Joachim, il pratiquait la justice et l'équité. Et il fut heureux. Donc il s'excuse par la grâce de Dieu de l'avertir par le biais du prophète Jérémie même, en allant là où il se trouve pour lui rappeler la conduite qu'il doit mener. Et il avait un deuxième rappel, l'exemple du témoignage de vie qu'a laissé son père Josias. Et je voulais m'arrêter tout simplement à faire une parenthèse ici sur le bonheur. Pourquoi? Parce que je remarque au verset 15, ton père pratiquait la justice et l'équité, il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'intelligent et il fut heureux. Vous savez, c'est pas comme l'on pense souvent, mais d'après la Bible, hein, on parvient au bonheur par le faire et non pas par l'avoir. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. On ne parvient pas au bonheur par. On parvient au bonheur par faire, c'est-à-dire faire ce qui est droit et juste, et non pas par l'avoir ou ce que vous pouvez posséder. Ou, en d'autres termes, le chemin du bonheur passe par le faire, et non pas par l'avoir. Vous allez me poser la question, mais pourquoi? Je vous invite à tourner votre Bible dans l'Ecclésiaste. Pourquoi? Tout simplement, une des raisons principales que je vois ici dans Ecclésiaste 5, verset 18. Ecclésiaste 5, verset 18. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Vous remarquez pourquoi le chemin du bonheur ne passe pas par ce que je possède? C'est clair, indiqué ici. Tout simplement, le don de réjouir de richesse vient de Dieu. Il y a des gens qui ont les deux dons et c'est rare. Qui ont le don des richesses et en plus le don de jouir de ces richesses. Ce n'est pas le cas. Et ça, c'est le cas exceptionnel si Dieu accorde la grâce de pouvoir réjouir des richesses qu'il donne. Ça, c'est l'exception. Mais la règle se trouve dans Ecclésiaste 6, versets 1 et 2. Et c'est bien marqué que c'est fréquent. Hein, c'est le constat du roi Salomon. Il dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Et qui est fréquent parmi les hommes, c'est la règle. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens, de la gloire, et qui ne manque pour son âme rien de ce qu'il désire. Mais la différence, c'est que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Le chemin du bonheur passe, non pas par ce que je peux posséder, parce que vous pouvez posséder et ne pas jouir. C'est un don de Dieu. Et c'est pour cela, Dieu a permis cela pour que nous n'attachions pas nos cœurs aux richesses. Dieu n'est pas contre les richesses, mais la Bible est contre sur le désir de vivre que pour la richesse et de trouver cela comme une raison d'être, de servir tout son être et toute son énergie pour cela. J'aimerais revenir sur le roi Joachim, donc maintenant, regardons les quatrièmes causes de sa maladie. C'est la cupidité. Tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité. C'est-à-dire ce désir incontrôlé, immodéré de porter sur l'argent ou les richesses. Joachim a choisi de mener une vie guidée par la soif de posséder. Or, cette soif de posséder est un dangereux tyran qui pervertit toute notre manière d'être et notre caractère. J'aimerais que vous le remarquiez dans les versets qui sont affichés sur le mur, que Dieu nous aime assez pour nous prévenir des conséquences de ce choix de vie, à travers ces quelques versets, ici le verset 13. D'abord, nous risquons de traiter les gens comme des machines à produire ou bien des objets, et non des êtres humains créés à la gloire de Dieu, à l'image de Dieu. Et quand nous traitons les gens comme des objets, donc il est normal qu'ils ne se reposent pas, ils ne méritent même pas son salaire. C'est le danger causé par la cupidité. Et verset 17, comme ils deviennent à nos yeux comme des machines à produire ou bien des objets, nous nous sentons autorisés à les utiliser à nos fins et à les opprimer. C'est ce que faisait le roi Joachim. Et troisième chose que je vois liée à la cupidité, c'est que la cupidité pervertit notre sens de justice et d'équité. Vous voyez, le roi Josias, son père, il fut heureux parce qu'il jugeait d'une manière équitable. Il fut heureux parce qu'il pratiquait de la justice et l'équité. Donc, ça pervertit notre sens de la justice et de l'équité. Et c'est le cas du roi Joachim. Mais j'aimerais vous montrer que quand la tête est malade pour un corps, tout le corps est malade. Et ce n'est pas seulement ce qui caractérise le roi Joachim, cette manque de justice et d'équité, mais ça caractérise l'époque, la société dans laquelle il se trouvait. Dans Jérémie 7, versets 2 et 3, il est dit, « Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. » Et là, publie cette parole et dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda qui entrez par ces portes, pour adorer l'Éternel. » Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Donc, au verset 5 et verset 6, la justice et l'équité étaient presque inexistantes à l'époque du roi Joachim. Je pense qu'il a été bafoué. C'est pour cela tous ces rappels du prophète Jérémie ici, réformez vos voies, vos œuvres. Verset 3, et au verset 5 du chapitre 22, « Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, vous voyez, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. » Donc ça, c'était coutume à l'époque du roi Joachim, l'injustice partout. Et je voudrais terminer par le cinquième point qui caractérisait sa maladie, à savoir qu'il est réfractaire à l'obéissance. Au verset 21, « Je t'avais averti quand rien ne menaçait ta vie. » Tu rajoutes ta vie. « Mais tu as répondu, je ne veux pas écouter. » C'est ce que tu as toujours fait depuis ton enfance. Je fais remarquer ici que Joachim a apparemment un problème par rapport à l'obéissance. Et cela dure depuis longtemps. Il dit depuis son enfance. Depuis son enfance, il refusait d'écouter les instructions de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. Et je voudrais juste m'arrêter ici pour nous encourager en tant que parents d'apprendre à nos enfants, dès leur jeune âge, combien il est important qu'ils se soumettent volontairement à l'autorité de Dieu dans leur vie. Je dirais, leur apprendre ce que c'est le principe d'inclusion, je veux dire ce que c'est, un principe biblique très général dans le gouvernement de Dieu. Cela veut dire que l'obéissance des enfants à Dieu qu'ils ne voient pas, passe par leur obéissance aux parents en tant qu'autorité que Dieu a placée au-dessus d'eux. Je voudrais répéter, l'obéissance des enfants aux parents, en tant qu'autorité que Dieu a placée au-dessus d'eux, manifeste l'obéissance qu'ils doivent à Dieu qu'ils ne voient pas, parce que Dieu est esprit. Et donc, il faut leur expliquer de leur jeune âge ce principe. Parce que s'ils ont du mal à obéir à ses parents qu'ils voient à côté d'eux, comment feront-ils pour obéir à Dieu qu'ils ne voient pas? Et ici, Dieu pointe ce problème pour la vie de Joachim. Depuis ton enfance, ce problème durait. Je ne sais pas pour vous aujourd'hui, peut-être aussi des prédications, des études bibliques, des encouragements, des exhortations, vous avez entendu, pour vous amener à obéir à un point dans la parole de Dieu pour changer d'attitude et changer de vie. Et ça a peut-être duré depuis longtemps. Moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est la patience de Dieu. Sa patience envers Joachim, parce que depuis son enfance, ce problème était là. Et ce problème perdure jusqu'à son âge adulte, où il devient réfractaire et par rapport à la parole de Dieu. Combien nous devrions veiller à cela, non seulement pour les enfants, mais en tant qu'adultes aussi, d'obéir à Dieu quand il nous parle, par sa parole. Je trouve que Dieu est tellement patient en tant que Père céleste et il a redonné une occasion encore à Joachim pour l'amener à nouveau à réfléchir sur ce point d'obéissance. J'aimerais que vous regardiez dans Jérémie 36 où il avait l'occasion à nouveau d'avoir la portion de l'Écriture entre ses mains et on l'a lu encore devant ses oreilles. Comme quoi Dieu ne se lasse pas de nous rappeler ce que nous devrions faire. Et c'est le cas ici pour le roi Joachim. Jérémie 36, versets 22 à 24. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Donc, Jérémie a fait écrire par son secrétaire Baruch la parole de Dieu et on a amené devant le roi Joachim cette parole et on l'a lue avec ses serviteurs. Et nous lisons la réaction du roi Joachim. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhu eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Encore une occasion d'entendre ce que Dieu a à lui dire sur cet aspect de l'obéissance. Et nous voyons ici sa réaction. Il a détruit le livre contenant la parole de Dieu prononcée par Jérémie et écrite par Baruch. Par cet acte, il rejette la vérité car il a déjà volontairement décidé de se soustraire aux exigences de la parole de Dieu qui lui demande à changer d'attitude par la repentance, chose qu'il refuse de faire. Et autre chose, non seulement il a jeté dans le feu, montrant son rejet de la parole de Dieu, mais il est dit, verset 26, que le roi et tous ses serviteurs qui ont entendu toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirent point leurs vêtements. Donc une indifférence totale et surtout, il ordonna de saisir Baruch et Jérémie le prophète. Voilà la réaction causée par une désobéissance qui était cultivée dans le cœur depuis sa jeune enfance. Il a semé ce désir de désobéir à Dieu dans son cœur. Il récolte les fruits, même en étant adulte. Prenons instruction de cet exemple et non pas faire comme lui qui ne montre aucun signe de repentance ni d'humiliation. Il ne déchirait pas ses vêtements, y compris le roi et ses serviteurs. Mais prenons exemple sur l'attitude de Josias. Lui, par contre, en entendant la parole de Dieu, déchira ses vêtements pour montrer une signe d'humiliation et de repentance d'un retour vers Dieu pour leur attitude, pour son attitude. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conséquence pratique pour nous aujourd'hui concernant de ces causes de la maladie spirituelle qui a atteint le roi Joachim? D'abord, de faire attention à la parole de Dieu que nous avons entendue, que nous entendons chaque jour. Et peut-être jusqu'à aujourd'hui, il y en a certains parmi les auditeurs qui ont entendu des prédications d'appel à changer d'attitude concernant des domaines dans leur vie, mais persistent à désobéir. Peut-être le Seigneur vous adresse son appel au salut, parce que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et le Sauveur de votre vie, mais vous l'avez refusé jusqu'à présent. Ne prenez pas l'attitude de Joachim de rejeter la parole de Dieu, mais acceptez avec repentance du cœur et avec obéissance la parole de Dieu. Parce que si vous refusez aujourd'hui la parole de Dieu, cette parole que vous rejetez aujourd'hui sera votre juge quand vous serez devant le juge de toute la terre, devant le grand trône blanc. Donc, attention, faisons attention à l'obéissance quant à ce que Dieu nous demande par rapport à sa parole. Deuxième chose que je vois dans l'exemple de Joachim que nous pouvons aussi tirer instruction, c'est que Dieu a laissé son exemple dans la Bible pour nous avertir du danger du matérialisme. Cette soif et ce désir de posséder. Vous savez, on dit toujours que c'est les riches qui sont matérialistes, mais ce n'est pas vrai. Les pauvres aussi sont matérialistes à partir du moment où ils ont décidé de vivre pour les choses matérielles. Et ça nous guette ce danger. C'est pour cela que l'apôtre Paul lui-même a donné cet avertissement dans 1 Timothée 6, versets 9 et 10. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés, c'est-à-dire sous le contrôle du désir de porter toujours sur l'argent et les richesses matérielles, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Qu'est-ce que nous pouvons retenir aussi comme le sens à travers l'exemple de Joachim, c'est que notre obéissance à Dieu, que nous ne voyons pas parce que cet esprit, passe toujours par l'obéissance à l'autorité qu'il place pour notre vie. Pour les enfants, ses parents, pour nous adultes, le chef hiérarchique au travail, nous y sommes. Et pour toutes ces autorités que Dieu place dans nos vies, l'obéissance à Dieu passe aussi par l'obéissance à ses autorités. Et vous savez, la leçon, je dirais, importante, c'est que commençons dès notre jeune âge à obéir à nos parents sans discuter, ni murmurer. Parce que je dirais, cela est salutaire et garanti, il y aura la facilité pour obéir plus tard à votre chef hiérarchique. Et toute autorité que Dieu place dans votre vie. Un encouragement pour nous, c'est cette promesse dans la parole de Dieu que si nous habituons les enfants dès leur jeune âge à obéir à Dieu, il ne s'en détournera pas quand il sera vieux. Et c'est une promesse, et si disons cela en tant que parents et pour nous-mêmes, pour la gloire de Dieu.